Vous écoutez
RMC.
Le retour des drôles de dames, Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet en direct jusqu'à 22h comme tous les lundis soirs. Dans un instant, l'Italie, un petit point sur les matchs en cours, ça n'a pas bougé en Ligue 2, 0-0 entre Martigues et Lorient et entre Metz et Bastia. Dans un quart d'heure, coup d'envoi de Villarreal, Atlético de Madrid et en Italie, la Juve mène 1-0 contre Com après une demi-heure de jeu. On est toujours en direct sur YouTube, le chat de la chaîne RMC Sport. D'ailleurs, Johan, beaucoup de questions sur la diffusion de la Serie A en France, je le disais, toujours pas de diffuseur.
Non, toujours pas. On reparlait à la Ligue encore ces dernières heures et les discussions reprennent avec les potentiels intéressés, sachant que la France n'est pas le seul territoire où l'Italie ne s'est pas encore vendue. Il y a l'Inde, l'Australie et d'autres. En Angleterre, ils ont signé au dernier moment. Aux États-Unis, ils ont signé au dernier moment. Mais comme d'habitude, la Ligue fonctionne très très bien aussi en Italie, au moins aussi bien qu'en France. Donc,
C'est fort.
Donc c'est très très fort. Et donc ça va se jouer entre Bein et DAZN, mais il y a une vraie tendance pour DAZN.
Ok. L'Italie, justement, avec la première de Paolo Fonseca sur le banc de l'AC Milan. Et ce match nul de partout face au Torino. Pas un bon résultat, mais ça aurait bien, il aurait pu être bien pire. Parce qu'il y avait 2-0 encore à quelques minutes de la fin pour le Torino.
Ouais, ils se sont réveillés. C'est un peu le truc de l'énergie du grand club qui, malgré tout, est quand même supérieur en individualité et en collectif. Qui, devant la pression des dernières minutes et l'entrée en jeu de pas mal de titulaires, réussit à renverser la rencontre. Alors, il n'y a pas de... comme pour le Napoli, mais de toute façon, on fera ça jusqu'à mi-septembre. Pas de panique pour tous les clubs, tant qu'il n'y a pas 4-5 matchs de jouer, que déjà le mercato n'est pas terminé. D'ailleurs, en Italie, on reparle beaucoup de la volonté d'arrêter le mercato quand le championnat recommence, parce que sinon c'est trop compliqué, c'est un bordel pas possible, qu'il y a des joueurs comme à l'Atalanta qui refusent de jouer alors que le championnat a repris. Ça paraît tellement être du bon sens que...
mais c'est infaisable.
Bah si, il y a une année où ils l'ont quasiment fait partout, hein, d'arrêter.
Ah oui, mais c'est ça, il faut que ce soit harmonisé.
Ah oui, mais
faut
que ce soit harmonisé, bien sûr.
Ouais.
Mais ça serait...
ça peut pas venir que d'Italie.
Il n'y a rien d'infaisable, hein. C'est juste une question de volonté. Hein.
Tu fais 15 août et puis c'est bon.
Exactement. Donc, il n'y a pas d'alerte particulière sur le match de Milan. Déjà, quand on prend la composition d'équipe, quand vous voyez qu'il n'y a pas de Théo Hernandez, qu'il n'y a pas de Pavlovic, la recrue principale en défense centrale, qu'il n'y a pas Emerson Royal titulaire, pas encore Fofana qui a été présenté à la mi-temps, pas Reinders qui était aussi remplaçant, Morata qui était remplaçant. Bon, c'est un 11 très expérimental qui était d'ailleurs plus basé sur la forme du moment et donc des joueurs en capacité de jouer 90 minutes ou s'en approchant un peu par rapport à d'autres qui étaient vraiment en retard de condition. C'était le choix de Fonseca, ça n'a pas été payant et on a vu quand même la différence qu'entre Théo, Morata, Reinders sont rentrés, ils ont vraiment changé, surtout Reinders je trouve qu'il a fait des très très grosses différences au milieu de terrain. Il y a quand même une constance chez Fonseca que moi je suis depuis le Shakhtar parce que ça me plaisait vraiment et le Shakhtar était souvent un laboratoire pour des jeunes coachs qui arrivaient un peu après et même pour des très bons Brésiliens notamment qui arrivaient après dans les grands championnats. Ensuite à la Roma évidemment de près, à Lille un petit peu également, c'est que à partir du moment où ils perdent le ballon, s'ils n'ont pas cette capacité à déclencher un pressing très rapide pour le récupérer, et pour ça on revient à la condition de départ, il faut être en forme physique, il faut avoir les capacités pour jumper très rapidement et récupérer le ballon, pour switcher entre j'avais le ballon et je remets de l'énergie pour le récupérer, ils sont vraiment, et il faut les joueurs pour ça, encore plus important, il y a des profils de joueurs pour ça et il ne les a pas toujours eu ces joueurs-là. Ils sont quand même, les équipes de Fonseca sont quand même globalement en difficulté à la perte de balle. Et c'est ce qu'on a vu sur le match contre le Toro, où dès qu'il y avait une perte de balle, le pressing ne s'enclenchait pas et le Toro avait pas mal de temps et d'espace pour avancer le jeu, pour sortir le ballon et donc d'être dans un confort un petit peu plus marquant que s'il y avait eu du pressing, qu'ils avaient été obligés de jouer rapidement et donc de provoquer quelque part un peu de déchets techniques ou d'incertitudes. Il y a encore des choses à améliorer sur... il y a un terme qu'on utilise beaucoup en Italie, parce qu'on est dingue de tactique, parfois d'ailleurs un peu trop, ce qui empêche l'ouverture du jeu, mais le marquage préventif. C'est comment, une fois qu'on a le ballon, on s'organise déjà quand on a le ballon pour la perte de balle, et donc les positions des joueurs sont très précises sur le terrain pour mailler à la perte de balle un peu tous les espaces nécessaires. Donc il y a des choses encore à régler, pas mal de choses à régler. Hier, il y avait quand même un manque flagrant d'idées, de créativité, de dépenses énergétiques, mais ça peut être lié à la forme physique, et d'agressivité, ce qui a beaucoup gêné Fonseca. L'essentiel de son discours d'après-match à DAZN, le diffuseur du match était quand même basé sur ça, sur le manque d'agressivité. Il n'a pas aimé la passivité de son équipe. Et d'ailleurs, Ambrosini, qui était le consultant, l'a aussi envoyé sur ce thème-là, la passivité de l'équipe, qu'on avait parfois vu avec Pioli. Et donc, Fonseca était censé amener une réponse à ça. Donc, on verra s'il sera en capacité de le faire. Et ce qui est presque un peu gênant, je trouve, pour un peu tout le monde à Milan, pour les dirigeants, un peu pour Fonseca et pour les joueurs, et notamment ceux qui sont censés être des leaders, c'est que Morata, à la fin du match, il est là depuis 15 jours, Morata. Il a dit faut changer d'attitude, faut changer de mentalité.
C'est lui qui a égalisé d'ailleurs.
Donc, tu vois, que ce soit un mec qui vient d'arriver, qui est là depuis 15 jours, qui n'est pas connu pour être un leader extraordinaire, Morata.
Même s'il était capitaine de la sélection espagnole.
Bien sûr, mais ça, dans ce parcours...
C'est un peu surprenant quand même.
Mais oui, mais dans ce...
Non, ça ne lui va pas très bien, je trouve. Mais bon.
Oui,
c'est ça. A priori, ce n'est pas le type auquel on pense pour être le leader d'investir.
Exactement. Et que ce soit lui qui, après la première journée, vienne te dire, et 15 jours sur place, j'ai déjà remarqué qu'on devait changer de mentalité, et donc être totalement différent dans l'agressivité, l'exigence... vouloir rouler sur l'adversaire, ne pas se contenter de ce qu'on fait, vouloir faire toujours plus. Je trouve ça presque un peu gênant. Je trouve ça bien d'un côté que tu te découvres une sorte de leader comme ça, mais pour tous les mecs qui étaient jusque-là présents, les Calabria qui est capitaine, même un Théo Hernandez, un Maignan, ce type de joueurs-là, un Loftus-Cheek qui a quand même un statut aujourd'hui à Milan, un Leao évidemment aussi, je trouve ça un peu gênant.
Ouais, Morata, tu voulais dire un mot.
Morata, oui, parce que en fait, il s'est passé beaucoup de choses pour lui. Son départ en Italie, c'est lié en grande partie à la haine qu'il ressent en Espagne. Moi, je trouve ça dommage. On l'a déjà évoqué. Moi, je trouve qu'il y a un délit de sale gueule, ou plutôt un délit de belle gueule. C'est-à-dire que Morata, c'est pas le typique footballeur qui vient d'en bas. C'est un petit bourgeois, Morata, et on lui fait payer ça. Et Dieu sait que moi, je suis pas un petit bourgeois, mais je vais le défendre parce que je trouve que. C'est ce qu'on appelle un pijo en espagnol. C'est un besbège, bonne famille, école privée, banlieue chic de Madrid, chemise rouge à carreaux et cheveux gominés. Et donc, il est le prototype de ce qu'on appelle un pijo en Espagne. Et je trouve que autant je déteste le délit de sale gueule pour des gens qui sont pas classe, autant je déteste le délit de sale gueule pour des gens qui sont classe. C'est-à-dire que c'est comme si, comme il vient d'un milieu favorisé, il n'avait pas le droit d'être dans le football. Tu vois? Et il a toujours reçu. Bon, il a fait des erreurs. Son père a beaucoup fait d'erreurs, etc. Mais je trouve que l'acharnement qu'il y a eu contre lui, notamment les menaces de mort contre ses enfants, enfin, c'est grave parce qu'il manquait des buts avec l'Atlético ou il manquait des buts avec la sélection. Moi, je trouve que cette campagne contre Morata est dégueulasse. Il divorce. Mais il part en Italie aussi parce qu'il est un peu dégoûté de son pays, de l'Espagne, de ce qui se prend dans la tête. Et je voulais poser la question justement à l'ami Johan. En Italie, il est plutôt apprécié, la personnalité, etc.
Il est passé à la Juve et ça s'est très très bien passé au sein du club, évidemment, où la Juve a plusieurs fois pensé même à le faire revenir ces derniers mois. Au niveau médiatique, c'est quelqu'un qui a toujours répondu au présent quand il fallait aller faire une interview. Assez rapidement à parler l'italien également, donc très bonne intégration, pas de délit de sale gueule. Il a été plutôt bon en plus quand il a joué à la Juve, donc là aujourd'hui c'est quand même pas rien de passer derrière Giroud qui a peut-être pas marqué 20 buts par saison mais qui a eu un impact très important.
Tiens, justement, l'Atlético, il vient de quitter ce club qui bouge beaucoup. Ouais, bravo. Est-ce que l'Atlético avec ce mercato va être le rival numéro 1 du Real Madrid pour le titre? Alvarez, le Normand, Sorloth sont déjà arrivés. On attend Gallagher, là, c'est tout proche.
Demain, il arrive demain.
Et voilà. Donc là, sans Gallagher, on est à 140 millions déjà d'euros dépensés. C'est plus compté sur l'Atlético que sur le Barça, finalement, cette saison.
Je ne sais pas. En tout cas, au moment de juger le mercato, il est évident que le plus beau mercato, c'est l'Atlético. Vraiment, franchement, parce que Sorloth, il finit deuxième meilleur buteur de la sélection espagnole avec de la Liga espagnole la saison dernière avec Villarreal. D'ailleurs, il joue ce soir contre Villarreal. Julian Alvarez, c'est quand même un super coup. Moi, je trouve que un Argentin, c'est un bon joueur quand même.
C'est très cher, trop cher en revanche.
Ouais, mais bon, après l'Atlético, vous
direz 75 millions.
Ouais, mais ils ont de l'argent parce qu'ils ont fait une ouverture de capital. Il y a un fonds d'investissement américain qui est là.
Puis ils vont à Miami le 22 décembre.
Ouais, peut-être.
Et puis pour le sortir de City, je pense qu'il fallait payer très cher.
Voilà. Mais moi, je trouve ça bien parce que tu perds Morata et je pense que Morata, il pouvait plus progresser énormément. Julian Alvarez, il peut se passer quelque chose. Le Normand, bien entendu, parce que avec la défense à trois que fait maintenant clairement El Cholo Simeone et puis les Pistons, etc. Je veux dire, le Normand, c'est bien. Ils veulent un autre gaucher, un autre défenseur central gaucher. Pourquoi pas? pourquoi pas Laporte qui pourrait intéresser le Real aussi. Si, ouais. Oui, alors il faudrait qu'il parte pas trop cher de l'Arabie Saoudite et qu'il baisse bien entendu son salaire parce que c'est même au Real, il n'aura pas le salaire qu'il a en Arabie Saoudite. Mais bon, pour l'Atlético, ça peut être intéressant. En tout cas, lui, il a envie de revenir en Liga. Moi, je demande Conor Gallagher, qu'est-ce que tu en penses pour l'Atlético? Je trouve qu'il y a une rénovation à l'Atlético qui me plaît pas mal du tout, parce qu'il y a quand même des joueurs importants qui sont partis. Hermoso, Savic, Memphis, Saúl, Morata, Paulista. Il y a quand même une vraie régénération du côté de l'Atlético qui, pour la 14e saison consécutive de Simeone à la tête de l'équipe, c'est un truc de fou, me semble intéressante. Qu'est-ce que tu en penses de Conor Gallagher ?
Pour moi, c'est le joueur parfait pour Simeone, quoi. Tu vois, c'est un joueur que moi j'aime. C'est pas que j'aime pas trop. C'est vraiment un très bon garçon. Mais c'est un joueur qui surtout court beaucoup. Tu vois, un foncier incroyable qui va presser. De toute façon, il est en train de créer une machine à pressing, hein, entre Alvarez et Gallagher. Mmh. Tu prends deux joueurs qui, au niveau du pressing, il y a pas beaucoup mieux en Europe. Après, avec le ballon, j'ai un peu de mal avec Gallagher, c'est tout, mais il est pas là pour apporter la touche créative à l'Atlético, de toute façon. Donc pour moi, c'est un joueur parfait pour Simeone. C'est un joueur qui travaille très dur, qui dit jamais rien. C'est un garçon charmant, vraiment agréable. J'en parlais encore avec Patrick Vieira, que j'ai vu samedi à l'Emirates pour le match d'Arsenal, qu'il a eu à Crystal Palace, lui, et qui a adoré, tu vois. Et c'est vrai, mais de toute façon, c'est parfait pour Simeone. Ouais. Après, ouais. 40 millions, je trouve que c'est un petit peu cher pour un joueur comme lui. Mais bon, encore une fois, si l'argent est là, c'est pas un problème. Mais
et les 75
parfait du joueur Simeone.
Pour Alvarez aussi, tu trouvais ça cher?
Ah, mais moi, le plus fascinant, entre guillemets, pour Alvarez, c'est qu'ils l'ont acheté 15 millions et qu'ils leur vendent deux saisons plus tard 75. Mais c'est incroyable. Mais de toute façon, même si depuis, il a remporté la Coupe du Monde, il a fait plein de choses, le triplé, la Ligue des Champions, tout ce que vous voulez. Jamais de la vie, c'est un joueur à 75 millions. Mmh. Oui, en jouant. Après, alors, il a été très efficace, c'est un joueur fantastique, hein. Il peut jouer partout. Encore une fois, état d'esprit parfait, physiquement, en parlant, en termes de pressing, c'est fantastique. Donc, lui aussi, c'est vraiment un joueur très Simeone. Mais de faire un bénéf pareil de la part de City, avec un joueur dont l'amortissement, dont l'amortissement qui a quasiment déjà été fait, en plus. C'est hallucinant.
Après, le Normand, pareil, plus de 35 millions d'euros.
Bah, c'est bien, le Normand, je trouve que c'est une belle évolution par rapport à...
Oui, c'est pas mal pour lui, mais pour l'Atlético, on n'est pas non plus sur un...
Non, mais après, l'Atlético, de toute façon, la famille Gil Marín, puisque c'est le fils qui possède et qui représente la famille, estime le club à 1,2 milliard. À terme, l'Atlético sera vendu, de toute façon. Donc, mais alors, il y a un truc aussi, c'est le... J'y reviendrai parce qu'on verra la condition physique de l'Atlético dans quelques semaines. Parce qu'il y a une petite révolution, c'est le changement du préparateur physique. Oscar Ortega, qu'on appelle le Profé, qui était là depuis 13 ans, qui était une espèce de... C'est un fou furieux, hein, les joueurs n'en pouvaient plus. C'est un mec qui tuait les joueurs, quoi. Il est tué. Et là, les préparations d'été, les mecs, ils vomissaient. Hein. Enfin, c'est, puis toute la saison...
Est-ce que c'est pas aussi lui la réussite du Cholismo?
C'était aussi peut-être la réussite à un moment, mais
le point faible aussi, tu veux dire.
La fatigue des joueurs. Il y a, tu te souviendras, Johan, tu sais, quand l'Atlético en 8e de finale, la première année de Cristiano à la Juve, il perd 2-0, il perd 3-0 au retour.
Exactement.
Et que la veille, en général, la veille de match, c'est plutôt des entraînements plutôt légers, etc. Le prof Ortega leur met une charge de travail de malade et ils se font démonter le lendemain, quoi. Donc voilà, c'est un gros changement. C'est Luis Pinedo qui était le préparateur physique espagnol de l'équipe B qui est monté avec Simeone. Donc quand on sait l'importance du physique chez Simeone, pour la première fois, on va regarder de près, vraiment de très près, le nouveau préparateur physique.
Et ça commence ce soir, hein. Dans deux minutes, le coup d'envoi du premier match de l'Atlético de Madrid, c'est à Villarreal. On va vous donner l'évolution du score sur RMC, bien évidemment, dans quelques instants, la course au titre en Allemagne avec Polo. Mais d'abord, la minute de Julien Laurence.
Le sunset des Kings, grand supporter d'Arsenal, les Kings bien sûr, si vous aimez ce genre de musique là, de cette période là, grand supporter d'Arsenal, parce que je voulais parler un tout petit peu d'Arsenal qui pour beaucoup ici en Angleterre sont les favoris de la Premier League cette saison, après être passé très près les deux dernières campagnes. Et c'est vrai qu'ils ont plutôt bien commencé à domicile contre Wolverhampton. Victoire 2-0, but et passe d'aise de Kai Havertz, but et passe d'aise de Bukayo Saka. Même s'ils ont perdu un peu le contrôle du match en début de seconde période quand Cunha est entré pour Wolverhampton, et qu'ils ont peut-être une petite baisse physique et un réajustement à faire un peu tactique après l'entrée de Cunha. C'est vrai que c'était plutôt satisfaisant, en tout cas pour un premier match à domicile qui de toute façon n'aurait jamais été parfait. Donc voilà, après-midi plutôt tranquille, c'est bien pour Kai Havertz d'avoir marqué encore. Ce sera lui le numéro 9 de cette équipe, alors qu'on parle encore beaucoup du besoin d'Arsenal d'aller chercher un grand numéro 9, un grand buteur. Je pense que c'est pas vraiment l'envie en tout cas d'Arteta, des dirigeants en ce moment d'Arsenal. Ils iront sûrement faire un Mikel Merino par exemple, et puis après ce sera terminé, en tout cas dans le niveau des arrivées. Mais voilà, c'était des débuts plutôt tranquilles, encore une fois un peu comme City à Chelsea, contre un adversaire assez physique qui à mon avis va embêter quelques équipes en Premier League cette saison, mais ouais, c'était vraiment vraiment assez encourageant pour Arsenal et Kai Havertz et Bukayo Saka.
Analyse musicale, ça fait un peu Beatles, non, les Kings?
Oui, un petit peu, bah, c'est sûr. Mais
On aime bien.
Ça, c'est agréable à écouter quand même.
On aime bien tous les fois.
Bah oui, bah, y a rien
de tout est moins bien que les Beatles, de toute façon.
De toute façon, je veux dire. Il est 21h30, petite pause. Dans un instant, la course au titre en Allemagne avec un Bayer Leverkusen déjà très chaud. La minute de Johan Crochet à suivre, et puis le point Ligue 2, on sera à la mi-temps dans quelques instants. C'est Génération After spécial Drôle de Dame. Le retour, à tout de suite.